Georges a perdu son grand amour et n'envisage plus de futur. Ce qu'il pense être son dernier jour va se révéler une initiation aux merveilles simples de la vie. Retrouvez Tom Ford dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter,
la différence.
15h04, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Dehors, il fait moins 10 degrés. Henri fume sa cigarette avant d'entrer boire son café. Tiens, dit-il, c'est étrange. Fumer gèle les couilles.
La suppression de la taxe professionnelle, ça change quoi pour vous? Aujourd'hui, nous recevons Pascal, un petit imprimeur provincial.
Eh ben pour moi, la suppression de la taxe professionnelle, c'est quand même plus bénéfique parce que je pourrais en mettre un peu plus dans les fouilles et puis je vais pouvoir payer les traites de mon 4x4, quoi. Et puis au moins c'est pas mon pognon qui filera dans les poches de ces connards de la municipalité de gauche qui mène la commune. Hein. Maintenant ils auront plus mon pognon pour entretenir leur piscine et leur terrain de sport. C'est bien fait pour leur gueule. De toute façon, on m'en fout parce que moi une piscine j'en ai une dans mon jardin et puis un cours de tennis je m'en suis fait faire un il y a 2 ans.
Il faut tout faire pour aider les chefs d'entreprise. Rendez-vous sur gouvernement.gouv.fr.
Bonjour Daniel, j'ai un petit problème d'algèbre. Pour un gars qui aurait été voyou avant de rentrer dans la politique, combien sont devenus voyous après ?
Bonjour Daniel, pour info à tous les auditeurs modestes et géniaux, les salariés d'Areva, de Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel, se sont mis en grève afin d'obtenir des augmentations et des conditions de travail dignes de ce nom. La lutte continue. Salut à tous.
Oui, salut, je voulais savoir qui allait profiter cette manne financière des détecteurs de fumée. Et puis autre chose, bah à quand un détecteur d'enfumage? Éric de Rouen, salut.
Allô, le répondeur de là-bas, il est 8h55, j'écoute Pierre Vell ce matin avec les deux Olibrius là qu'il a invité. Là, ça fait 20 ans qu'on nous raconte les mêmes histoires et tout. Je comprends pas qu'on invite encore des gens comme ça dans un sabir novolangue, incompréhensible. Et aucune contradiction, quoi. Vivement le professeur Laurent. Hein. Ciao.
Quand monsieur Jacques Attali dit ce matin sur France Inter que la crise est devant nous et que ce qui nous attend est absolument monumental, on lui rappelle que Frédéric Lordon le dit depuis plus de 3 ans. Alors quand il dit qu'on va bien s'en sortir, on doute quand même un petit peu de ses paroles. D'autre part, quand il prétend œuvrer pour les générations futures, rappelons-lui une petite phrase de Constantin Castoriadis que je déforme peut-être un peu parce que c'est de mémoire. La question n'est pas de préparer ou de prévoir l'avenir. Ce qui nous appartient, c'est de le permettre. Voilà, bon courage à tous et continuons. C'était Daniel de Saint-Brice. Au revoir.
Salut Daniel, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais à propos du Chili, plus exactement sur la réflexion de Nixon sur ce pays. Je veux signaler l'autre poète de l'administration américaine de l'époque, le fameux Kissinger, qui lui parlait de virus du bon exemple. Et il disait, il faut éradiquer le virus du bon exemple. Tout un programme, comme tu vois, tout un programme politique, toute une philosophie qui sévit jusqu'à nos jours. C'était Saïd de Paris. Salut.
Merci pour ces messages, chers AMG. On a évoqué la nécessité d'écouter un peu Frédéric Lordon. Eh bien, ce sera la semaine prochaine, dans la basse, si j'y suis. Et puis, autre perspective, Botule. Ah, Botule existe-t-il? Est-ce qu'il existe-t-il? Le plus grand philosophe français nous a dit qu'il n'existe pas. Est-ce que c'est pas là aussi une appréciation un petit peu hâtive? On en saura plus la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous continuons au Honduras, coup d'État au Honduras, 214 jours de résistance héroïque, et là, on va voir la résistance du côté des médias. Eh oui, ils sont tous pourris, sauf quand même quelques-uns, ces journalistes. Et puis, on ne perd pas toujours. Vous vous souvenez des deux reportages qu'on vous a présentés avec Charlotte Perry, jeudi 18 et vendredi 19, au sujet de ce jeune agriculteur bio de 28 ans, Jean-Hugues Bourgeois, qui s'installe à Teillet, dans le Puy-de-Dôme, un petit village de 299 habitants, pour reprendre l'exploitation de Michel Message. Vous vous souvenez, ce type sympathique, agriculteur, qui arrive à la retraite et qui confie son exploitation à ce jeune gars. Et c'est une horreur, les ennuis commencent, les chèvres du jeune agriculteur sont tuées, des lettres anonymes, des menaces contre la femme et la fille du jeune agriculteur, enfin c'est une véritable monstruosité, la grange du paysan est brûlée. Enfin, c'est toute une horreur, vous avez suivi ça. Si bien que, en décembre 2008, Jean Hugues, qui n'en peut plus, décide de lâcher prise. Il quitte la région et il va s'installer en Loire-Atlantique pour y élever des chèvres. Mais en juin dernier, le juge d'instruction de Rion met Jean-Hugues Bourgeois en examen pour l'ensemble des faits, le soupçonnant notamment d'avoir lui-même écrit des lettres de menace, s'être écrit à lui-même des lettres de menace, si vous suivez bien. Et il y a une expertise graphologique qui est faite et qui aboutit à une mise en examen. Eh bien, on vient d'apprendre que ce mardi 23 février, lors d'une nouvelle audience, le juge d'instruction de la Cour d'appel de Rion a annulé la mise en examen de Jean-Hugues Bourgeois et on a donc joint le jeune agriculteur Jean-Hugues Bourgeois.
Allô?
Oui, bonjour Jean-Hugues.
Bonjour.
Alors, du mardi dernier, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rion a annulé la mise en examen dont vous faisiez l'objet. Vous êtes soulagé, j'imagine?
Je suis évidemment très soulagé. Je suis à la fois un peu amer, mais surtout soulagé. J'avais un peu peur qu'il sorte de ça par un vice de forme. Et en fait, la chambre d'instruction a aussi tranché sur le fond.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que non seulement ils ont annulé les expertises graphologiques qui me mettaient en doute en les jugeant litigieuses, mais ils ont aussi tranché sur le reste de la procédure en rendant un avis qui disait que les indices considérés par le juge d'instruction reposaient sur des éventualités, des constructions intellectuelles, des éléments subjectifs mais pas de faits avérés. Et ils ont aussi relevé l'absence flagrante de mobile en soulignant que ça, tout ça avait réduit à néant un projet dans lequel je m'étais fortement investi.
Le juge d'instruction a fait preuve d'une construction intellectuelle et d'un jugement subjectif?
Ouais, d'une vision subjective découlant d'une construction intellectuelle. C'est ce que rend la vie. Bon, de toute façon, je suis pas surpris. Je pense que il s'était mis bille en tête sur une vision de culpabilité. Et puis, tout est venu étayer cette vision-là. Et ce processus a été arrêté de manière assez claire par la chambre d'instruction.
Et donc, au niveau de votre statut maintenant, ça change quoi?
Je me retrouve à nouveau partie civile, donc victime. La loi dit qu'en cas d'annulation de la mise en examen, l'ancien mis en examen se retrouve immédiatement témoin assisté. Donc j'ai un double statut, à la fois de témoin assisté et de partie civile.
Et concrètement, pour vous, ça va changer des choses?
Oui, ça va changer des choses. Ça va changer que le regard de mes voisins, des instances agricoles, de l'administration sera pas le même. Puisque mon départ précipité de Teillet, ma réinstallation, ça avait mis une certaine pagaille dans mes dossiers d'installation. Et autant il se montre conciliant avec quelqu'un qui est considéré comme une victime, autant c'est beaucoup plus compliqué avec un prévenu. Et surtout, ça va changer pour moi la réouverture du dossier, de l'enquête.
L'enquête va être ouverte?
En tout cas, l'avis de la chambre d'instruction va dans ce sens. Il y a deux nouveaux juges d'instruction qui ont été saisis.
Et ça va aussi faire taire un peu les rumeurs sur Teillet?
Alors, ça, je ne pense pas. Enfin, je suis même sûr que non. De toute manière, le mal est fait. Ça confortera dans leur position ceux qui ont toujours cru à notre culpabilité, comme ceux qui ont toujours cru à notre innocence.
D'accord. Et là, donc, aujourd'hui, vous allez faire quoi?
Je vais traire les chèvres, celles qui viennent de mettre bas pour distribuer le colostrum au petit. Et j'ai un petit peu de boulot sur la machine à traire qui déconne.
Vous en avez combien, des chèvres?
Je suis associé avec quelqu'un et on a 130 chèvres à la traite là.
Eh ben écoutez, bon courage.
Merci beaucoup et merci de vous être penché sur cette étrange histoire.
Vous êtes à 214 jours de lutte.
C'est le dernier jour de la lutte, la dernière manif.
Es el primero de una nueva etapa en la lucha.
Non, c'est plutôt le premier jour d'une nouvelle étape dans la lutte.
On a compris, les golpistes, c'est de la merde.
La dinámica del ejército y la dinámica de la policía era matar o asesinar a gente de bajo perfil.
La estrategia del militar es de tuer des líderes emergentes.
Sí.
El pueblo consciente.
Le peuple conscient ici est présent.
El ascenso al poder del presidente Lobo.
L'ascension au pouvoir du président Lobo
significa una esperanza nacional.
Es una esperanza, es un espoir nacional. Voilà, c'est le coup d'état décomplexé, quoi. C'est le coup d'état new look.
Sacrificado. 42 puñaladas.
Lui, c'est le pire, c'est lui qui a été le plus sacrifié, quoi. 42 coups de couteau.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base qui suis avec Antoine Chao, Honduras. 214 jours de lutte héroïque.
Flight number 2, arriving
from...
On attend le dénouement. 214 jours de mobilisation, 214 jours de lutte. Est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'on a gagné? C'est la question que se posent les gens là.
Et tout ça, c'est suivi en direct par la Radio Globo. La Radio Globo qui est une radio de la résistance. Et on voit pas mal donc de manifestants qui ont pris leur radio un peu comme nous. Donc on a notre petite radio. Donc on peut avoir l'information non officielle, donc non contrôlée par les putschistes et le nouveau gouvernement. Voilà, donc c'est la Radio Globo, la radio du peuple. Alors Radio Globo qui a été fermée, qui a été brouillée pendant les premiers jours du coup d'État. Et ils ont été menacés régulièrement. Mais donc ils ont réussi à reprendre l'antenne et là à couvrir cet événement avec tous leurs reporters qui ont pris position sur toute la route que prend le convoi présidentiel.
En noticias Radio Globo. En noticias Radio Globo.
Exactamente las 6 de la mañana, 10 minutos.
Las 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ir.
Si vous préparez un coup d'État, si vous préparez un coup d'État, n'oubliez surtout pas de prendre les médias. Il faut très vite contrôler les médias, et y compris la radio. Mais si vous faites de la radio et que vous voulez entrer en résistance, n'oubliez pas votre escabeau. C'est ce qu'on va apprendre de la bouche même de David Romero, le directeur de Radio Globo, la radio de la résistance de ces 214 jours de lutte héroïque au Honduras. Bien évidemment que immédiatement après le coup d'État du 28 juin, à la seconde même, toutes les télés, radios étaient prises par les golpistes, c'est-à-dire par ceux qui ont fomenté ce coup d'État, et la presse également, mais pour l'essentiel, la presse appartient bien évidemment aux grands oligarques de ce pays, même si quelques petits journaux essayent quand même de faire entendre une autre voix, ils ont été immédiatement muselés. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux médias dans cette histoire, dans ces 214 jours de lutte. Ça a été une résistance, là aussi évidemment indispensable. Et la fameuse journée du 27 janvier que nous avons revécu ensemble, il y a 3 jours dans la base où j'y suis, alors a été accompagnée, vous venez de l'entendre, par cette radio. Mais c'est une radio vraiment comme on aime, c'est-à-dire de la radio foraine, de la radio outil, de la radio qui sert immédiatement. Et vous pouvez très bien être dans une foule, enfin vous pouviez, mais ça va continuer parce que
On apprend qu'il y a eu une manifestation le 25 de quelques 10 000 partisans de l'ex-président Manuel Zelaya qui ont manifesté contre le nouveau président Porfirio Lobo en réclamant une assemblée constituante et l'arrêt des assassinats politiques. En effet, il y aurait eu des assassinats de personnalités de l'opposition donc ces jours derniers. Donc ça n'a pas l'air de s'arrêter. Il se pourrait bien que ce nouveau pouvoir ait du fil à retordre. Et il en aura avec cette radio, donc avec ces reporters qui font, comme certains de la Basilisie, ce qu'on appelle du reportable, c'est-à-dire du reportage avec un portable. Je parle dans mon portable, je le passe à la personne interviewée qui me le rend, etc. Et ils ont réussi comme ça à faire vivre et à informer tout au long de ces journées et de ces nuits de résistance. Ces nuits de résistance, il faut resituer peut-être à nouveau l'histoire très très rapidement. Je rappelle, cet étonnant président, Manuel Zelaya, élu en 2006, un oligarque, un grand propriétaire, un bourgeois. Je le répète encore une fois, ce Honduras fait partie de ces petits pays tenus par quelques familles, une dizaine de familles, de propriétaires, d'exploitants. Tantôt c'est la banane, tantôt c'est le café, là c'est les palmiers à huile, ici c'est la forêt, là-bas c'est les maquiladoras. Bref, ils sont propriétaires de tout dans le pays, avec l'appui et la complicité, le lien permanent avec les États-Unis, puisque le Honduras est encore aujourd'hui une base militaire, mais surtout a été une base militaire au temps des Contras, c'est-à-dire de la lutte contre les guérillas alentours, et notamment la guérilla sandiniste du Nicaragua. Mais aujourd'hui, il y a toujours une base militaire des États-Unis qui s'appelle Palmerola. Et cette base militaire, justement, ce foutu président Zelaya, il voulait se débarrasser de ses militaires états-uniens et en faire un aéroport, ce qui n'a pas plu dans cette préparation de ce coup d'État. C'est un pays très pauvre, l'Honduras, je le rappelle. 70% vivent donc dessous du seuil de pauvreté. 40% du produit intérieur brut provient des remesas, c'est-à-dire l'argent envoyé par les immigrés partis aux États-Unis et quelques-uns en Europe. Donc voilà ce mail Manuel Zelaya élu, et il opère un virage social. Il augmente le SMIC de 60%, il prend toute une série de mesures, et surtout, ce qui ne plaît pas du tout aux golpistes, ni, on va le voir, à leurs alliés états-uniens, c'est qu'il adhère à l'alliance bolivarienne, l'ALBA. Il rejoint le camp qui prône la rupture avec le néolibéralisme, c'est-à-dire Bolivie, Équateur, Cuba, Venezuela, etc. Et c'est ça qui sera évidemment la raison de ce coup d'État. Le 26 juin dernier, au Honduras, on a sifflé la fin de la récré. Même si Barack Obama a dénoncé clairement le coup d'État, il se pourrait bien que Washington ait joué un double jeu. La raison avancée par les golpistes, par ceux qui ont fait le coup d'État, c'est que le président était en train de violer la Constitution. Et en fait, c'est absolument faux. Ce que voulait Zelaya, c'est qu'il y ait une quatrième urne. On a appelé ça la quatrième urne, pour voir si l'opinion souhaitait un référendum pour modifier la Constitution, c'est-à-dire organiser une assemblée constituante, comme ça a été le cas dans un certain nombre de pays, au Venezuela, en Bolivie, souvenez-vous, de façon à changer la Constitution actuelle rend impossible le moindre progrès social. Et l'un de ces éléments de cette Constitution, c'est aussi de voir si on ne peut pas avoir plus qu'un mandat, si un président peut être élu 2-3 mandats de suite, ce qui est le cas dans les démocraties modernes, les grandes démocraties modernes, comme la nôtre ou les États-Unis. Il n'y avait en aucun cas une violation de cette Constitution. Et pourtant, c'est ça qui a servi de cause et d'alibi à ce coup d'État dont vous connaissez l'issue. Le président Zelaya est parti, il est en exil, et aujourd'hui c'est Pepe Lobo, Porfirio Lobo, qui est devenu le président élu le 28 novembre dernier. Nous en sommes là et nous continuons jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
los hipertensos.
Mel, la ciudad fatal también está contigo. Micheletti, escúchate esta. Nos paran si no nos aguantan para que nos brincas y luego se matan. Estamos con él, duela quien le duela, que está en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pobre Gorinetti debajo de la suela, cerrando hospitales, cerrando la escuela.
Aquí hay mucha gente que está apoyando esta causa, que desde Honduras cruzando montañas hasta Nicaragua apoyando a Mel. Esto sí es democracia, toda la gente te dice presente. Eres chilete, tu tiempo está contado, estás ocupando algo que tú te has robado. Vuelve a tu cargo que es de Bucero. Viva Daniel, Mel, Chávez y Fidel. La juventud está apoyando a Mel Zelaya, todo con tal. Nicaragua, allí está tu gente de Orlando, Sotelo, Colón y mucho más, llegando su vida, cruzando montañas para apoyar a su presidente constitucional. Ey, Gorinetti, deja ya de joder, deja que regrese Mel y que vuelva ya al poder. Más muerte no queremos ver, sangre hondureña que no vuelva a correr.
Oh, 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 oh. Dormido en tu sueño, porque el pueblo sabe que el único y el dueño de la presidencia es Mel Zelaya. Te lo estamos diciendo desde acá, de la ciudad de Ocotal, los locos del gueto. ¿Ok? Ja.
Es una muestra de su gobierno de unidad.
Estamos ahora en preparación de los programas.
On est en train de préparer notre programme qui s'appelle
Voces contra el olvido.
Les voix contre l'oubli.
Et t'as vu pour l'insonorisation du studio, c'est des plaques, tu sais, pour les œufs en carton, et on fait pas de radio sans casser les œufs. C'est-à-dire que si tu veux faire de la radio, il faut que tu casses des milliers d'œufs pour avoir les emballages que tu colles, et ce qui donne une insonorisation parfaite.
À que romperlos, saltarlos.
Ici, il faut pas hésiter pour pouvoir faire de la radio ici.
Et n'hésite pas, les gars, ils savent très bien utiliser ce média indispensable et génial dans ces situations-là. On sait se servir de la radio en Amérique latine, partout dans le monde, mais spécialement dans ces régions, on connaît l'efficacité de ce média. Et là, on rencontre ce journaliste là qui est au siège de la COFADE où on était hier et qui est en train, vous avez compris, de préparer une émission sur la mémoire, sur les victimes, sur les disparus dans ce petit studio et qui nous raconte son histoire. Les journalistes sont tous pourris, mais pas tout à fait tous.
En HRN.
Moi, je travaillais avant à HRN.
Pratiquement la première cadena de radio de Honduras.
C'est quasiment la première radio qui existait ici.
De mucha presencia informativa, la de mayor audiencia.
Donc, il y a beaucoup d'infos, c'est la radio la plus écoutée.
Pero de un corte muy conservador.
Mais elle est très conservatrice.
Tanto que la radioemisora participó desde antes, o sea, en la planificación y en las acciones del golpe de Estado y las sigue apoyando.
La radio ha participado aux prémices du coup d'État y continúa a soutenir le coup d'État pendant toute la période.
Al grado que le negó la participación a los sectores que promovían la cuarta urna, como el presidente Zelaya, y solo permitía a los que estaban en contra de la cuarta urna.
Donc elle a refusé de donner la parole à ceux qui étaient pour la quatrième urne, donc pour un changement de la constitution. Elle a refusé de leur donner la parole, elle a donné la parole que à ceux qui étaient contre Zelaya et son projet de changement constitutionnel.
Y luego cuando se produce el golpe de Estado, la emisora cierra sus canales, sus micrófonos a la gente que está en resistencia y solo se las abre a los golpistas.
Et au moment du coup d'État, la radio a fermé son antenne à tous ceux qui étaient de la résistance. résistance et n'a donné la parole qu'aux putschistes.
Yo hice valer mi derecho a la libertad de prensa.
Donc j'ai fait valoir mon droit de liberté de la presse.
Pero también el derecho del pueblo a ser informado, el derecho de acceso a la información.
Et j'ai défendu le droit du peuple à avoir accès à l'information.
Para que el pueblo mismo se formara su propia opinión en base a lo que escuchaba.
Pour que la population puisse se faire son propre avis.
Y no que le impusiéramos una opinión al pueblo desde una óptica cerrada.
Et qu'on n'impose pas une opinion très fermée au peuple.
Que estaba plegada a los intereses del gobierno de facto, de los militares y de las grandes empresas.
Qui était aligné sur l'opinion des putschistes, des militaires et des grandes entreprises privées.
Y como casi todas las emisoras del país pertenecen a grandes empresarios y a políticos.
Et comme la plupart des médias du pays appartiennent à des hommes politiques ou à des grands patrons.
Estaban a favor del golpe.
Étaient en faveur du coup d'état.
Vender la idea de que aquí en Honduras no hubo golpe de estado sino transición constitucional.
Voilà, pour vendre le fait qu'ici il n'y a pas eu de coup d'état mais il y a eu une transition constitutionnelle comme ils disent.
Es decir que según ellos la constitución le otorgaba al Congreso Nacional el derecho de destituir al presidente o separarlo. Donc, lo cual no es cierto.
Leur argument c'était que la constitution leur permettait de destituer le président, ce qui est faux.
0-3-0-8-93. Mucha atención, puede marcar también el 552-4932-612-4546-612-23. Queremos cantarle a la gente de cumpleaños hoy en este día. ¿Quién cumpleaños? Usted está de cumpleaños, su amiga, su amigo. Eso nos gusta, fíjate, hoy en los famosos. Y también una mujer muy guapa, Edith Parque, cantante mexicana.
Yo trabajaba hasta el 31 de diciembre en Diario El Heraldo de Honduras.
Moi j'ai travaillé jusqu'au 31 décembre au journal Le Herald de Honduras.
He dejado ese periódico, estoy trabajando como periodista independiente.
Alors aujourd'hui, j'ai quitté ce journal et je travaille comme journaliste indépendante.
Porque en el periódico hay una línea específica para escribir, para expresarse y es a favor del golpe.
Parce que dans le journal, il y a une ligne éditoriale vraiment spécifique qui est en faveur du coup d'état.
Y yo estaba totalmente en contra.
Et moi j'étais contre, totalement.
Yo era la jefe de información del diario.
Moi j'étais chef de l'information au journal.
Et un journal qui plairait beaucoup à notre ami Alexandre Adler, qui compare Chavez à un gorille. Tous les jours dans le Herald de Tegucigalpa à Honduras, on a Chavez monstrueux, dégoûtant, répugnant, mais odieux, voleur, corrompu, antisémite. C'est tous les jours. Dans ce journal. Et puis, bon, ben voilà, cette jeune journaliste, Myriam Amaya, qui était chef de l'information, elle en a eu marre et un jour, elle a claqué la porte. Et la voilà, dans cette petite radio de cette association pour des droits de l'homme, en train de faire son travail de journaliste dans d'autres conditions.
Bueno, no podía escribir que fue un golpe de estado.
On ne pouvait pas dire que c'était un coup d'état, on ne pouvait pas l'écrire.
No podía decir que Roberto Michelletti era un presidente de facto.
On ne pouvait pas dire que Roberto Michelletti était un président de facto.
No podía entrevistar a personas que estuvieran en contra del golpe.
On ne pouvait pas faire des entretiens avec des gens qui étaient contre le coup d'état.
Y tampoco podía expresarme en contra de la represión a los hondureños.
Et on pouvait même pas dénoncer la répression qui était faite.
En contra de algunos asesinatos que se estaban dando en ese momento.
Dénoncer les assassinats qui ont été commis à ce moment-là.
Y también me molestaba mucho el maltrato a las mujeres.
Et je ne supportais pas non plus les violences faites aux femmes.
Por parte de efectivos policiales y del ejército en las manifestaciones.
Par la police et les militaires pendant les manifestations.
También estaba en contra de que se llamara al Frente Nacional de Resistencia turba de delincuentes.
Donc j'étais contre aussi le fait qu'on appelle le Front National de la Résistance une bande de délinquants.
Dans le Herald, on a vu, c'est tous les jours, il y a un diable dans ce journal qui est Chavez.
Yo no estoy de acuerdo con Chávez. No comparto algunas cosas. Lo que me importa es mi país.
Oui, moi, écoutez, Chávez, je suis pas non plus complètement convaincu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays.
En ese sentido, el presidente Manuel Zelaya estaba apoyando a las clases más pobres de Honduras.
Et ce qui se passe, c'est que le président Zelaya était en train d'aider les couches les plus pauvres du Honduras.
Y había una campaña en todos los medios en contra de él.
Il y avait une campagne médiatique contre lui dans tous les médias.
Es por eso que estaba en desacuerdo en muchas cosas, porque yo sabía que la campaña estaba antes, durante y después del golpe.
Y moi je sais que cette campagne médiatique a commencé avant, pendant et après le coup d'État.
Comment ça se passait, les tensions, le conflit avec votre direction? Ils vous menaçaient de vous foutre dehors ou c'est vous-même qui êtes parti?
Non, no se amenaza. Porque si tú quieres escribir golpe de Estado y te dicen no, es una sucesión constitucional.
Parce que si toi, en tant que journaliste, tu veux écrire coup d'État et on te dit non, c'est une succession constitutionnelle.
Ese es el término que vamos a utilizar en el Heraldo.
Ça, c'est le terme qu'on utilisera dans le journal.
De alguna manera es sutil.
C'est une censure subtile.
Nada pasaba. El presidente Zelaya no estaba preso, ni siquiera existía.
Donc il se passait rien, le président Zelaya n'était pas prisonnier, il n'existait plus.
Lo único que existía eran cuatro candidatos apoyados por los golpistas que iban a un proceso electoral que era una fiesta y en la que los hondureños debíamos de impulsar la democracia.
Il n'y avait qu'une chose, c'était quatre candidats qui étaient soutenus par les putschistes et qui allaient participer à un processus électoral dans la joie, et tout ça pour promouvoir la démocratie.
Hemos presentado en Noticias Radio Globo el pronóstico del tiempo.
El Heraldo, la verdad en sus manos. La vérité entre vos mains. Voilà, nous y sommes.
La vérité entre vos mains, c'est l'Heraldo, alors que là-bas, si j'y suis, c'est la vérité entre vos oreilles. Mais là, c'est l'Heraldo, le grand journal du Honduras, qui appartient à l'une de ces très puissantes familles, un beau bâtiment, une belle rédaction et un bien sympathique interlocuteur. Ok, alors on est avec Fernando Berrios. Berrios, c'est ça?
Así es, soy jefe de redacción de Diario L'Heraldo.
Voilà, moi je suis le chef de la rédaction du journal El Heraldo.
Diario El Heraldo es el periódico de referencia nacional.
Donc le journal El Heraldo est le journal de référence nationale.
El periódico por excelencia de la capital.
Le journal par excellence ici dans la capitale.
Tenemos una línea editorial muy bien definida, somos un periódico que defendemos la democracia, el estado de derecho y velamos por los intereses de la sociedad.
Donc on a une ligne très claire, hein, on défend la démocratie, l'état de droit et les droits de la société.
Mais très vite, vous avez soutenu le coup d'État.
Non, nosotros mantuvimos una posición independiente en esto.
Nous, on est resté sur une position indépendante à ce sujet-là.
Comment vous avez qualifié alors cet événement?
Bueno, nosotros creemos que aquí hubo una sucesión constitucional.
Donc nous, on dit qu'il y a eu une succession constitutionnelle.
Une succession constitutionnelle, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas eu de coup d'État.
Para mí no hubo golpe de Estado y en la línea editorial que ha manejado el periódico no hablamos de golpe de Estado.
Pour moi, effectivement, il n'y a pas eu de coup d'État et pour la ligne éditoriale du journal non plus.
Donc le monde entier s'est trompé en disant que c'était un coup d'État alors.
Casi toda la prensa nacional no habló de golpe de Estado.
Presque toute la presse nationale n'a pas parlé de coup d'État.
La internacional creo que casi toda habló de golpe de Estado.
Et effectivement, presque toute la presse internationale a parlé de coup d'État.
Lo extraño es que en Honduras no hubo mayores condenas. Casi todos los sectores de la sociedad hablaron de una sucesión constitucional.
Mais c'est étonnant parce qu'ici, au Honduras, il y a eu très peu de contestations et tous les milieux ont parlé de transition constitutionnelle.
Ouais, d'accord. On a rencontré une de vos consoeurs qui s'appelle Myriam.
Et non, creo que ya no está trabajando aquí.
Non, elle travaille plus là.
Elle travaille plus ici.
Renunció, no sé por qué razones lo hizo.
Elle est partie, je sais pas pour quelle raison.
Ok.
Es el jefe de jefes, señores. El Zelaya, nuestro presidente. Es un hombre de gran valentía. Lo queremos, allí está presente. Los periodistas también prefieren. Y su pueblo mucho más lo quiere. Es el jefe de jefes, señores. Y decirlo no es por presunción. Muchos grandes le piden favores. Porque saben que Mel es mejor. Mel Zelaya está con su pueblo. Un presidente de gran honor.
Corporación Flores, distribuidor exclusivo de Toyota Motor Corporation y Daihatsu Motor Company.
Hemos presentado en Noticias Radio Globo el pronóstico del tiempo y y la cotización del dólar desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín.
Soy José David Elner Romero, director de Radio Globo.
Donc je suis José David Romero, directeur de Radio Globo.
Bueno, esta es una radio normal como cualquier otra, una radio mercantil.
No, esa es una radio comercial, hein, comme les autres.
O sea, no, para esto lo hago para diferenciar que no es una emisora alternativa.
Donc il faut être clair, ce n'est pas du tout une radio alternative.
Sin embargo, su política editorial desde que asumimos la dirección de la radio es vincularlo más a los sectores sociales y a los procesos sociales que vive Honduras.
Mais depuis que j'ai pris la direction éditoriale, on a décidé de prendre en compte les différents secteurs sociaux du pays et notamment les processus sociaux en route au Honduras.
Pourquoi vous avez pris cette ligne?
Estamos frente a un fenómeno de que si seguíamos la ruta que tenía el resto de los medios de comunicación, nosotros íbamos a ser absorbidos por el sistema. Entonces tomamos la decisión de romper con el esquema y buscar nuestra propia conducta y línea editorial.
Donc on a décidé de rompre avec ce système dominant hégémonique des radios privées et donc de choisir cet autre chemin pour ne pas être noyé dans cette proposition radiophonique.
Mais est-ce que vous avez gardé vos annonceurs?
Lógicamente la posición de la radio le hizo incluso que se perdieran algunos clientes, pero nosotros decimos que un buen periodismo apegado a la verdad es un periodismo que también genera ganancia.
Effectivement, avec le repositionnement, on a perdu quelques annonceurs, mais on se dit aussi qu'un vrai journalisme indépendant, c'est une valeur qui peut aussi générer des profits.
Ah ah ah, vous avez vu, hein, ce que nous dit David Romero, une radio indépendante, une radio sociale, ça peut faire des sous avec les annonceurs. Je trouve qu'on est beaucoup plus riche qu'on le pense à la base, j'y suis, si on voulait. David Romero, si vous imaginez les révolutionnaires ou les guérilleros d'Amérique latine avec le physique de Che Guevara, ben c'est pas du tout le cas de David Romero. C'est un bon petit pépère, bien rond, bien sympathique, bien avenant, bien jovial, et il vient de vivre une aventure assez formidable au cours de ces 214 journées héroïques de résistance, parce que vous avez compris aussitôt, bien évidemment, les militaires et les golpistes ont saisi les télés, les radios, les journaux, ce qui pouvait leur échapper encore. Et il y a eu des résistances, il y a eu des résistances sur une télé, et puis il y a eu une résistance sur une radio, Radio Globo, qui a été donc la voix de la lutte et la voix de la résistance au cours de toutes ces journées, mais ça n'a pas été une partie de plaisir.
Creemos que somos una emisora que estamos luchando por espacios políticos, por espacios democráticos en nuestro país.
On se bat pour des espaces politiques, pour des espaces démocratiques dans notre pays.
De ahí nos quedamos lógicamente acompañando al presidente Zelaya en este proyecto hasta que se dé el golpe de estado. Entonces, con el golpe el 28 de junio, los espacios se cierran, montan un cerco mediático que nos vemos obligados nosotros a romperlo, ¿no?
Donc on a accompagné l'ex-président Zelaya et au moment du coup d'État, on s'est rendu compte qu'il y a eu un encerclement médiatique et il a fallu rompre ce blocus médiatique pour dire la vérité.
Entonces, con el golpe, nosotros venimos a la radio y dijimos, bueno, están golpeando algo que también de la radio es como parte de la radio en proceso. Entonces denunciamos el golpe de Estado.
Donc nous avons dénoncé le coup d'État qui nous semblait être de la même façon une violence et un coup contre cette radio qui défendait les mêmes projets.
Y al denunciar el golpe de Estado, de nuevo, nosotros somos antimilitaristas por convicción, ¿verdad?
Parce que nous sommes de toute façon antimilitaristes par conviction.
Y la resistencia que se conforma en Radio Globo, casualmente su voz de aliento frente a la censura impuesta por la dictadura.
Alors, du fait de la censure imposée par la dictature, le front de résistance a vu dans Radio Globo son média, c'est une façon de pouvoir communiquer.
Y de ahí, pues, que nosotros fortalecimos esa alianza entre la resistencia, Radio Globo y otros medios de comunicación que entramos juntos a romper este cerco mediático, ¿no?
Donc on s'est associé entre la Radio Globo, le Front de Résistance et d'autres secteurs pour rompre ce blocus médiatique.
Radio 1.
Vous écoutez Radio 1
desde Tegucigalpa.
En direct de Tegucigalpa.
Aquí está un colega de Radio Nacional de Francia.
Avec nous.
Es esos aviones,
ces avions qui passent,
no los ocupamos,
nous ne les utilisons pas.
Necesitamos escuelas,
ce sont les écoles dont nous avons besoin.
De combate,
ces avions de combat,
qui vont-ils combattre? Aquí hay que combattre.
Ici, c'est la pauvreté qu'il faut combattre,
et l'analphabétisme.
Et c'est ce que voulait combattre
José Manuel Zelaya Rosales. Abrir una ventana
pour donner de l'espoir aux classes moyennes et pauvres du Honduras.
Et ces hyènes
jamais rassasiées,
et
ces familles voraces,
le dijeron no a la democracia,
ont refusé la démocratie,
a la dictadura,
et ont dit oui à la dictature. Et c'est la plutocratie hondurienne qui a triomphé momentanément. Mais les libertés républicaines reprendront leur place dans ce pays.
À nom de Radio Uno, collègue français,
au nom de Radio Uno, chers confrères de la radio française, qui dit la vérité, parce que la vérité nous rendra la liberté. Merci.
Bueno, el 28 de junio, el día del golpe de Estado, a las 6 de la tarde los militares tomaron la radio y la asaltaron.
Le 28 juin, le jour du coup d'État, les militaires ont pris d'assaut la radio.
Ici là où nous sommes.
Oui, ici même, oui.
Les militaires sont entrés dans les studios.
Es correcto, ellos entraron, primero nos advirtieron, me llamaron a las 10 de la mañana que dejara de informar.
D'abord, ils nous ont appelé, ils nous ont demandé d'arrêter d'informer.
Que bajar el tono.
De baisser le ton.
Que este no era un golpe de Estado, que era una sucesión presidencial.
Il ne s'agissait pas d'un coup d'État, mais d'une succession présidentielle.
Entonces, en ese momento, yo lo que recurrí fue más bien a fortalecer más mi denuncia.
Alors moi, au contraire, là, j'ai dénoncé encore plus fort.
Y decir que los militares nos estaban amenazando,
j'ai
¿verdad?
Dit que les militaires étaient en train de nous menacer.
Y que nos querían callar y que nos uniformáramos con el resto de los medios de comunicación.
Et qu'ils voulaient nous faire taire ou nous faire nous aligner sur les autres médias.
Desde ese momento comenzaron a intervenir electrónicamente la radio.
Alors là, ils ont commencé à essayer de saboter par voie informatique la radio.
Y a las 6:10 de la tarde del 28 entraron por este edificio, subieron hasta el séptimo piso de este edificio.
Le 26 au soir, ils ont investi l'immeuble, ils sont montés sur la terrasse.
Y empezaron a romper puerta por puerta, puerta por puerta.
Et ils ont cassé les portes une par une.
Hasta que llegaron a este tercer piso donde estamos nosotros.
Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés ici au troisième étage où nous sommes nous.
Y luego pues me andaban buscando.
Yo me cherchais.
Yo lo quise que mi oficina estaba al final de este pasillo.
Et mon bureau est en fait tout au bout de ce couloir.
Y abrí una ventana como esa que tengo ahí, me tiré, me dejé
donc
ir.
J'ai ouvert une fenêtre et puis j'ai sauté par la fenêtre.
Caí, sí, caí, me fracturé el brazo, las costillas,
la pierna, le bras, les côtes, la une jambe.
Pero no me agarraron, me fui.
Mais ils m'ont pas attrapé.
Yo me escapé porque yo sabía que me andaban buscando y me iban a llevar esa noche y.
Moi je me suis échappé parce que je sais qu'ils me cherchaient et qu'ils allaient m'emmener ce soir-là.
Y tuve temor de que se me torturase. En el 80 me torturaron los mismos militares, ¿verdad?
Moi j'avais peur de me faire torturer parce que dans les années 80 j'ai déjà été torturé par ces mêmes militaires.
Entonces tuve temor de volver a enfrentar la misma situación y mejor.
Donc j'ai eu peur d'être obligé d'affronter cette même situation.
Y por eso me arriesgué y me tiré, ¿no?
C'est pour ça que j'ai pris le risque de sauter par la fenêtre. En ce moment, ils essaient de couper l'antenne. On est à Radio Globo.
Je veux
prévenir les auditeurs de Radio Globo qu'en ce moment, on est victime d'un assaut. Cette radio est attaquée par les forces publiques, les militaires.
Ils
tapent dans les portes. Ils ouvrent les portes avec des baramines, à coups de baramines. On fait un appel international.
Un appel.
C'est un appel au peuple du Honduras.
Qui vient
soutenir sa radio. Où en ce moment les portes sont défoncées par les militaires.
Las fuerzas armadas de Honduras. ¿Verdad? La libertad de expresión es una libertad, es un derecho.
La liberté d'expression est un droit pour tout le peuple du Honduras qui peut être informé.
Informarle al pueblo hondureño. De todo lo que está pasando
en este momento, ¿verdad?
Voilà, David Romero, un élément sonore quand même extraordinaire, ce qu'on vient d'entendre. Et voilà comment les choses se sont passées. La radio a été fermée, il a fallu tenir le coup, mais tout le Honduras était à l'écoute. Enfin, tout le monde écoutait chaque mot. C'était c'était pas Radio Londres, c'était Radio Tegucigalpa, Radio Globo.
El 29 de junio, el siguiente día.
Le 29 juin, le lendemain.
Me citaron al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
J'ai été convoqué aux Forces Armées.
Una plática con el General Romeo Vázquez Velázquez.
Pour une discussion avec le General Romeo Velázquez, qui était le commandant du putsch.
Me dijo textualmente, David, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? Estamos a disponibilidad de ustedes.
Et il m'a dit textuellement, qu'est-ce que vous voulez, David?
¿Qué quieren ustedes? ¿Qué necesitan?
Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin?
Entonces yo le dije, necesitamos libertad de expresión.
Je lui ai répondu, on a besoin de liberté d'expression.
Y eso es lo único que queremos, que nos dejen trabajar tranquilamente.
Donc c'est la seule chose qu'on veut, c'est que vous nous laissiez travailler tranquillement.
Y me levanté y me vine del Estado Mayor con el temor, lógicamente, que es normal de todo ser humano, ¿no? De que...
Et donc je me suis levé, j'ai quitté l'état-major avec une grosse inquiétude, comme tout être humain dans ces cas-là.
Frente a esa negativa, entonces ellos arreciaron contra la radio, ¿verdad?
Alors là, ils ont continué à mettre d'autant plus la pression sur la radio.
Comenzaron a apagar la energía eléctrica.
Ils ont coupé l'énergie, le courant.
A cortar los transmisores en el Cerro de Cantagallo, donde los tenemos.
Ils ont coupé les émetteurs dans les montagnes où ils sont placés.
Fueron avanzando en ese proceso, después nos pusieron un transmisor que intervenía nuestra señal.
Donc après ils ont brouillé le signal hertzien.
Y así estuvieron hasta que un día le echaron líquido ácido a los transmisores para sacarlos del aire.
Et jusqu'au moment où ils ont saboté avec de l'acide nos émetteurs.
Hasta que llegó el 28 de septiembre que de nuevo asaltaron a la radio a las 5 de la mañana.
Et le 28 septembre ils ont à nouveau attaqué la radio.
Ese día estamos transmitiendo a las 5 de la mañana.
Donc on était en pleine émission à 5 heures du matin.
Cuando oímos que estaban rompiendo la puerta.
Donc on a entendu qu'ils tapaient à la porte.
Hicimos la denuncia al aire también que nos estaban asaltando la radio.
Donc on a dénoncé en direct à la radio qu'on était en train de que l'armée nous attaquait.
Más de 80, 90 militares, ¿verdad?, asaltando la radio, ¿verdad?
Ils étaient à peu près 80 à prendre la radio d'assaut.
Para esa oportunidad teníamos una ruta de escape y salimos por la ventana, pero ya con escaleras y nos fuimos.
Mais heureusement, on avait prévu une issue de secours par la fenêtre à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait une échelle et on a pu s'échapper.
La asaltaron, se llevaron el equipo, nos dejaron 22 días fuera del aire, ¿verdad?
Donc, ils ont emmené tout le matériel et on est resté 22 jours sans pouvoir diffuser ni émettre.
Sin embargo, nosotros, inmediatamente después del asalto, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya habíamos salido por internet, estábamos en una casa clandestina.
Et heureusement, juste après l'assaut, on a réussi à s'installer dans une maison de façon clandestine et à émettre sur Internet.
Y en esos 22 días sucedió un fenómeno increíble, ¿no? En Honduras, la cultura del Internet ha sido muy poca, pero se incrementó en 70% los usuarios de Internet.
Alors, pendant ces 22 jours, c'est quelque chose d'incroyable qui est arrivé, c'est que nos auditeurs, et notamment ceux sur Internet, ont augmenté de 80%.
Noticias Radio Globo.
Qui est derrière ce coup d'État?
La oligarquía hondureña, la empresa, 10 empresarios, 12 empresarios.
L'oligarchie du Honduras, une dizaine de gros patrons.
Que han sido los dueños de este país.
Qui ont été les propriétaires de ce pays.
Los militares son un instrumento nada más.
Les militaires ne sont qu'un instrument.
Políticos como Micheletti que también son instrumentos.
Micheletti qui a été le président de facto intérimaire aussi n'est qu'un instrument.
Estos planificaron el golpe, estos se lo plantearon a la embajada americana o a los
gringos. C'est ces patrons qui ont planifié le coup d'état, qui l'ont proposé à l'ambassade américaine.
Si bien es cierto, la embajada se opuso al golpe de estado en la forma que se dio.
Si c'est vrai que l'ambassade s'est d'abord opposée au coup d'État, de la façon dont il a été mené,
al final, el Departamento de Estado lo terminó avalando.
À la fin, le secrétariat d'État a fini par l'avaliser.
Lógicamente, porque quería mandar un mensaje a esta nueva democracia que emerge en América Latina.
Uniquement parce qu'il voulait lancer un message fort à toutes ces nouvelles démocraties qui naissent en Amérique latine.
Buscaron el eslabón más débil de toda esta cadena para golpear.
Donc ils ont choisi le maillon le plus faible de toute cette chaîne pour frapper ces nouvelles initiatives.
Pero creemos nosotros en nuestra percepción que se equivocaron porque hay un pueblo que más bien lo levantaron y que elevó su conciencia.
Mais je pense que c'était pas un bon calcul parce qu'au contraire, ils ont levé un peuple et ils ont élevé la conscience de ce peuple par ce coup d'état.
Il y a eu une coalition
un front, comme vous dites, hein, pendant ces 214 jours, effectivement, un front s'est constitué contre le coup d'État et contre le, même contre les élections. Et aujourd'hui, le nouveau président est investi. Est-ce que ce front va tenir?
Sí, nosotros creemos que sí. Nosotros apostamos, yo por lo menos en la radio apostamos, a que este frente, al margen de las divergencias ideológicas, hay una meta común, un objetivo común.
Oui, moi je pense, et d'ailleurs à la radio, on pense que malgré les quelques divergences qu'il peut y avoir à l'intérieur du front, on a tous un même but, un même objectif.
Es refundar Honduras.
Crear... Il s'agit de refonder le pays.
Construir un nuevo pacto social, una nueva constitución.
Construir un nouveau pacte social, une nouvelle constitution.
Eso va a mantener unido a la resistencia.
Ce projet assure la cohésion du front.
El camino a seguir es la constitución de un frente amplio.
Donc le chemin à suivre, c'est constituer un front large.
Y romper con ese esquema del bipartidismo de la oligarquía.
Et rompre avec le schéma du bipartisme de l'oligarchie.
Le peuple conscient ici est présent.
Nuestras armas son las pinturas.
Nous, nos armes, c'est les bombes, c'est la peinture pour écrire sur les murs.
La raison, la palabra.
La raison, les mots.
Y ellos, las armas.
Mais eux, ils ont les armes.
Los fusiles.
Les fusils.
La dinámica del ejército y la dinámica de la policía era matar o asesinar a gente de bajo perfil.
La estrategia del militar es de tuer des líderes emergentes.
Sí.
J'ai jamais entendu parler, ni rencontré, ni vu un personnage comme Mel Zelaya, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme riche, un grand bourgeois, qui appartient au Parti libéral, et qui, une fois élu, va changer peu à peu sa vision des choses et va s'engager dans des politiques sociales, des politiques de répartition des terres, d'augmentation des salaires, de rapprochement aussi avec le Venezuela, dans son inscription à l'ALBA. Parlez-moi un peu de ce personnage.
Bueno, aquí hay la transmutación de conciencia, como decimos nosotros.
C'est la transmutación de conciencia, comme on dit.
Sí, porque él es de una familia oligarca.
Parce que lui, effectivement, il est d'une famille d'oligarques, des propriétaires terriens.
Pero él se encontró una vez, siendo funcionario público, con la realidad de Honduras.
Mais lui, en étant fonctionnaire public, il a pris conscience de la réalité du Honduras.
Él fue director del FIS, una institución que se encarga de muy vinculado a la pobreza de este país.
Donc il a dirigé le FIS, qui est un institut qui s'occupe de la pauvreté du pays, qui est très proche des pauvres.
Y ahí se dio cuenta que el problema de Honduras, el problema social de Honduras se llama pobreza.
Il a compris que le problème social du Honduras s'appelle la pauvreté.
Y en la coyuntura que le toca gobernar, se da cuenta que hay democracias emergentes como la de Venezuela, Brasil, como
en fait, il a pris conscience qu'il y a des démocraties émergentes comme celle du Venezuela, comme celle du Brésil,
que pueden permitirle, siempre viviendo en democracia, a estos países despegar de la sacar de la pobreza.
Qui permet à des pays tout en restant dans un système démocratique de faire diminuer la pauvreté.
Porque el mismo presidente Zelaya decía que la pobreza tiene un antecedente que es la injusticia social.
Zelaya dice que la pauvreté a un antecedent qui est l'injustice sociale.
Y que la injusticia la provocaban los poderosos en este país.
Et l'injustice, elle vient des dominants dans ce pays.
Est-ce que vous voyez comme un marxiste? Est-ce que vous voyez dans une tradition de la gauche ou du Parti communiste?
Sí, yo fui militante de izquierda.
Oui, moi j'ai été militant de gauche.
Fui miembro del Partido Comunista.
J'ai été membre du Parti communiste.
Et luego fui un dirigente estudiantil.
Après j'ai été dirigeant d'un mouvement étudiant.
Estuve en el movimiento revolucionario hasta la década de los 80, hasta el 83 más o menos.
J'ai été dans les mouvements révolutionnaires jusqu'en 83.
Con militancia activa, ¿no?
Un militant actif de ces mouvements-là.
Luego me involucro en el periodismo, entonces me desligo de una militancia activa.
Alors après je me suis lancé dans le journalisme, donc j'ai arrêté la militance active.
Me quedo así haciendo periodismo, pero siempre lógicamente con una visión del mundo distinta, ¿no?
Donc effectivement, je fais maintenant du journalisme mais avec une vision du monde différente du reste des journalistes qui font ce métier ici.
Le nouveau président Pepe Lobo, monsieur Lobo, était lui aussi communiste, était au Parti communiste lui aussi.
Pepe Lobo fue mi compañero.
Pepe Lobo a été mon camarade.
Fuimos camaradas, él estuvo en la escuela de cuadros de Moscú que estuve yo.
On a été dans la même école de cadres à Moscou.
Sí, ya ves las ironías de la vida.
Et vous voyez bien l'ironie de la vie.
Pepe Lobo, el marxista de la década de los 70, hoy es el conservador.
Pepe Lobo, le marxiste dans les années 70, et aujourd'hui le conservateur qu'on connaît.
Manuel Zelaya, el conservador de la década de los 70, hoy es el revolucionario.
Manuel Zelaya, le conservateur des années 70, et aujourd'hui un progressiste.
Trois destins.
Tres destinos diferentes.
Sí. Tres destinos diferentes.
Sí, sí. Por ejemplo, con Porfirio Lobo tuve una plática recién antes de
On
que...
On a discuté avec le nouveau président Porfirio Lobo il y a peu de temps.
Y a raíz de eso, hice un editorial en la radio.
Et suite à ça, donc, j'ai fait un édito à la radio.
En donde le di públicamente por primera vez el seudónimo que él utilizaba en el Partido Comunista de Honduras.
Et là, j'ai annoncé à la radio, je l'ai appelé par son pseudonyme qu'il utilisait quand il était au Parti Communiste.
José Saavedra Muñoz.
Alors, c'était José Saavedra Muñoz, son pseudo.
Así se le conocía en ese tiempo.
Et comme ça qu'on le connaissait à l'époque.
Merci à tous. C'était un reportage avec Antoine Chao. On continuera la semaine prochaine. Montage, Catherine Pento et Antoine Chao. Merci à Myriam, à Maya, David Romero, Berta Oliva et Melba Reyes. Vous pouvez retrouver Radio Globo sur le net, Radio Globo Honduras tout attaché.com. Et puis, nos amis de Radio Globo ont obtenu le prix Ondas, tout comme là-bas, si j'y suis. Je rappelle qu'on a eu le prix Ondas il y a bien longtemps. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez écouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Kamal Salifou. C'est Koye Nguyen et Raphaël Moutard qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée d'Agnès Lebot. Et le numéro du répondeur de la base CGT, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.
La suppression de la taxe professionnelle, ça change quoi pour vous? Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe, fabricant d'accessoires de cheminée.
La suppression de la taxe professionnelle représente une économie importante qu'on a décidé de couper en deux, d'en investir la moitié dans du renouvellement de matériel et l'autre moitié dans des actions commerciales qui vont nous permettre d'aller chercher des relais de croissance dont on a besoin en tant que fabricant. C'est une petite bouffée d'oxygène en fait qui nous permet d'aller un peu plus loin que ce qu'on pourrait faire en temps normal.
Il faut tout faire pour la reprise. Alléger les charges des entreprises qui choisissent d'investir en France, c'est agir pour la croissance et pour l'emploi. Rendez-vous sur economie.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'économie.
T'es sûr de ça?
Mais oui, je te le dis, ils vont prendre une déculottée.
Ok, ok, ça va. Bon, file-moi le stylo, que je remplisse ce bulletin.
Tiens, attrape.
Mais c'est quoi ce tir là? Oh, c'est pas cadré du tout ça.
Mais c'est toi qui as manqué la réception.
Je manquais la réception, arrête un peu, je t'ai démarqué là, j'étais tout seul. Et puis c'est quoi ce stylo? C'est pas homologué ça.
Mon stylo? Pas homologué? Si tu savais tous les matchs qu'il a fait, tu...
Tu me fais mal.
Faites le match avant le match et rendez-vous dans plus de 24 000 points de vente FDJ avec Paris On Sport. Paris On Sport, mieux parier pour mieux gagner.
FDJ.
16h30 secondes sur Inter. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 15h pour la base. Si j'y suis, ce sera avec Frédéric Lordon. Lundi, mardi, Botul. Et mercredi, on retourne au Venezuela. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Un drame s'est produit en Savoie. Deux pisteurs secouristes qui s'occupaient tôt ce matin de la sécurisation des pistes de ski de la station La Toussuire sont morts en manipulant des explosifs. Il s'agit d'un homme et d'une femme âgés de 39 et 33 ans. Le matin, pour sécuriser les pistes avant l'arrivée du public, on déclenche souvent de façon préventive des avalanches. C'est ce qu'ils étaient partis faire. L'enquête montre qu'ils ont été tués par l'explosion d'un bâton de dynamite doté d'un système de mise à feu électronique. Sur le port de Brest, les deux bonbonnes de gaz reliées à un détonateur découverte dans un hangar après l'expulsion de squatteurs ont-elles été neutralisées par les services de déminage en début d'après-midi? On ne sait pas encore si elles étaient ou non en état de fonctionner. Une conférence de presse des autorités locales débute à l'instant. Le français Séverin Blanchet, tué ce matin dans les attentats de Kaboul, était un documentariste engagé. Il œuvrait depuis des années à la formation de jeunes cinéastes en Afghanistan et à travers le monde, selon ses proches collaborateurs des ateliers Varan. Il était arrivé hier matin matin dans la capitale afghane pour un nouveau projet. Âgé de 66 ans, Séverin Blanchet avait notamment réalisé en 2008 Les Enfants de Kaboul, une série de documentaires présentés au Festival de Cannes l'an dernier. Il a été tué dans l'attaque coordonnée de plusieurs hôtels occupés par des étrangers à Kaboul, attaque revendiquée par les talibans. Trois adolescents âgés de 15 et 16 ans ont reconnu être les auteurs des profanations dans deux cimetières du Nord, celui de Cassel et celui d'Auxerre. Une soixantaine de tombes avaient été abîmées, des croix gammées, des tags à connotation raciste avaient été retrouvés. Les collégiens ont expliqué l'avoir fait sans motivation idéologique, mais pour s'occuper, rigoler et faire parler d'eux, selon le procureur de la République, Ludovic Depré. Ils ont été interpellés hier matin et mis en examen. Ils en cours jusqu'à 7 ans de prison devant le tribunal pour enfants. L'affaire Ali Soumaré inquiète la CNIL, la commission de l'informatique et des libertés. Le site du Point révèle que son président Alex Turc a écrit au directeur de la police nationale, Frédéric Pechnard, afin de savoir si les informations rendues publiques par des élus UMP sur le passé judiciaire de la tête de liste PS dans le Val-d'Oise sont issues ou non du STIC. Le STIC, c'est ce système de traitement des infractions constatées qui recense les auteurs et les victimes. Le STIC n'est consultable que par des personnes habilitées. Les avions revoleront normalement à partir de demain matin, fin annoncée de la grève des aiguilleurs du ciel. Leurs syndicats font en effet état d'avancées significatives dans les négociations sur le futur statut des personnels de l'aviation civile.
Patrick Rambaud, c'est cet écrivain qui chronique la vie du château. Alors bien sûr, du règne de Nicolas Ier, il va être question ce samedi, mais pas que. Car Patrick Rambaud va devoir à son tour réagir et commenter l'actualité d'une semaine passée à l'écoute de France Inter. Prenez date, c'est ce samedi que Patrick Rambaud vous donne rendez-vous. C'est à 15h30 et c'est dans...
Le zapping de France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Je vous ai déjà parlé ici même des difficultés de la maison Emmy qui pourrait être rachetée. Donc ce catalogue magnifique d'enregistrements de tous ordres, d'ailleurs classiques, variétés, les Beatles, entre autres, plein de gens de tous bords ont enregistré au studio d'Abbey Road que la maison voudrait bien vendre. Peut-être qu'ils vont être protégés finalement. Je crois qu'une décision va être prise pour en faire une sorte de monument historique. Mais en attendant, le catalogue d'Emmy Classics d'EMI est toujours bien présent et la maison publie ces jours-ci Emmy Masters, une collection à prix tout à fait abordable, autour de 9 €. Je vous propose d'entendre par exemple un corniste qui a disparu trop jeune à 36 ans dans un accident de voiture. Il s'appelle Dennis Brenn, il est devenu légendaire à cause de ça, un peu aussi, vous savez, quand voilà, comme James Dean, une disparition brutale et surtout quand on est très jeune, ça fait parler beaucoup, mais il avait un tout à fait réel talent. Et après avoir fait la guerre dans la RAF, Dennis Brenn a été démobilisé et il a été appelé comme corne solo au Royal Philharmonic Orchestra. Il est venu aussi au Philharmonia. Il a été applaudi par Karajan et d'ailleurs Karajan a enregistré avec lui les concertos de Mozart. Voici un exemple, Allegro, du troisième concerto pour cor par Dennis Brenn. Thank you.
Thank you.